Là, c'est la fin de ce journal. À suivre, Accent d'Europe et direction la Sardaigne. Restez à l'écoute de RFI.
Radio G. 101.5 FM.
Dimanche 15 février de 8h à 19h. Pousse la porte de Radio G à Angers. Tu t'es déjà demandé comment se fabrique une émission de radio ? Viens découvrir l'envers du décor. Visite les studios et assiste à des émissions en direct et échange avec les animateurs et bénévoles de Radio G. T'es curieux, passionné ou juste un simple auditeur ? Radio G t'ouvre grand ses portes. Entrée libre et gratuite, dimanche 15 février de 8h à 19h, 3 rue de la Rame, Angers.
Plus d'informations sur radio-g.fr.
18h10, 19h, Topette, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins sur Radio G.
Bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de Topette sur le 101.5 FM, l'émission qui prend le temps de parler culture, actu, bref, tout ce qui fait battre le cœur de la vie locale. Pour nous accompagner ce soir, nous avons Pierre Benoît, qui est là malgré la maladie. Tu vas mieux ?
Oui, bonsoir.
Et Loris, qui est toujours à nos côtés. Comment ça va, Loris ?
Super.
Bah, Loris, du coup, accueillera tout à l'heure l'invité de ce soir, Ryan Trigan, le représentant de la médiathèque de la Renloue à Saint-Barthélemy d'Anjou. Il nous parlera des prochains rendez-vous culturels de la médiathèque à ne pas manquer. Ensuite, toujours avec Loris, on découvrira Nicolas Senna, bénévole des JO d'hiver en Italie. Mais ce n'est pas tout. Nous aurons aussi la Daronne Angevine et le premier papier d'Esteban en stage à Radio G. En tant que grand fan, il parlera de son club de foot préféré, Saint-Étienne.
18h10, 19h. Topette sur Radio G.
Mais avant ça, petit point actu avec Kelly.
J'ai l'info. L'actualité à Angers et dans le département de Maine-et-Loire sur Radio G.
Parfois, il y a des nouvelles auxquelles on ne s'attend pas, mais qui changent le cours d'une vie. C'est exactement ce qui est arrivé à Justine Jocchetti, chef du restaurant La Promenade à Beaupréau en Mauges. À presque 32 ans, la jeune Bélo-Pratène vient d'être sacrée nouvelle lauréate des régions Val-de-Loire et Pays de la Loire dans la catégorie Jeune Talent du célèbre guide culinaire Golden Milo. Selon elle, cette récompense n'était pas espérée du tout. Je cite « Quelqu'un a appelé au restaurant pour me l'annoncer. Je ne m'y attendais pas. » Sa surprise vient du fait qu'il n'y a pas de candidature à poser afin de participer au Golden Milo. Disons que la récompense arrive un beau jour. Ce nouveau titre vient valider tout le travail quotidien qu'effectue son équipe depuis l'ouverture de son restaurant en 2022 afin de fournir des plats de qualité à ses clients. Imaginez un instant. Un jour, vous arrivez à Angers pour faire vos années d'internat dans le cadre de vos études de médecine et 20 ans plus tard, après avoir mené plusieurs recherches sur les effets de l'absence de gravité sur le corps, vous vous retrouvez à mettre en condition réelle vos hypothèses en compagnie d'une astronaute partant pour une mission de 8 à 9 mois. Non, je ne vous raconte pas ici le synopsis d'un nouveau film de science-fiction, mais bien l'histoire de Marc-Antoine Cousteau, professeur à l'Université d'Angers et praticien au CHU. Ce jeudi 12 février, si tout se passe bien, son objet d'étude ne sera pas un cobaye immergé dans une baignoire, mais l'astronaute française Sophie Adenau, qui rejoindra l'ISS 5 ans après Thomas Pesquet, en compagnie de 2 Américains et d'un Russe, lors de la mission Crew 12. Cette dernière doit durer entre 8 et 9 mois. Pour mener à bien son expérience, Marc-Antoine Cousteau a donné à l'astronaute le PhysioTool. C'est un appareil qui récoltera des informations sur le cœur, la respiration, la pression artérielle, l'activité musculaire et mesurera les effets cardiovasculaires de diverses stimulations neurosensorielles. De plus, Sophie Adenau sera soumise à des mesures lorsqu'elle sera au sol, en vol et à son retour sur Terre quand son corps sera de nouveau soumis à la gravité et devra réapprendre à se réguler. Est-ce que vous vous souvenez de Gilles Bourdoulex ? Mais si, vous savez, le maire de Cholet qui a été récemment jugé pour l'affaire des feux d'artifice du 14 juillet 2022 qui avait causé 2 morts. Récemment, il a finalement été jugé et a été condamné à 18 mois de sursis. Et si je vous disais qu'il a encore eu des problèmes avec la justice ? Le 8 juillet 2024, pendant un conseil d'agglomération, le maire de Cholet s'en est pris verbalement à son élu d'opposition, Franck Chahureau. en le traitant d'antisémite. Évidemment, s'en suivit une plainte de ce dernier qui nous ramène le lundi 9 février où Gilles Bourdoulex est finalement passé devant le tribunal correctionnel d'Angers pour injure publique et diffamation. Le jugement de cette affaire sera rendu uniquement après les élections municipales.
J'ai l'info sur Radio G.
Merci Kelly. Maintenant, parlons de l'événement à venir. La compagnie théâtrale du Pont d'Ardoise arrive avec sa comédie annuelle, Un père et père de Récounet, un spectacle hilarant mis en scène par Carole Galisson. Il y aura des représentations le 13 et 14 février à 20h30 et le dimanche 15 février à 15h, salle Georges Brassens à Avrillé. Et le vendredi 20 et 21 février à 20h et le dimanche 22 février à 15h, salle Claude Chabrol à Angers. Le tarif est de 9 et 5 euros. L'ouverture de la billetterie se fait sur place 30 minutes avant les séances. Si vous voulez des renseignements, contactez le 06 22 40 12 83. Et tout de suite, nous allons accueillir notre invité de la soirée avec toi, Loris.
L'invité de Topette sur Radio G.
Aujourd'hui dans Topette, on parle culture et surtout on parle de ce qui se passe tout près de chez vous à la médiathèque de la Renloue. Bonsoir Yann.
Bonsoir.
Tu es aujourd'hui le représentant de la médiathèque pour nous présenter plusieurs rendez-vous importants dans les prochaines semaines, du cinéma, de la lecture, des échanges avec le public et même un prix littéraire où ce sont les lecteurs qui votent. On va parler ensemble des séances de cinéma à la médiathèque, du prix Sésame, du book club et aussi de ton coup de cœur pour l'œuvre de Jean Dittard.
C'est ça.
Et l'idée, c'est parler des événements qui se passent à la médiathèque et de ce que ça peut apporter aux habitants. Mais avant tout ça, on va parler de la médiathèque. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous expliquer ton rôle au sein de la médiathèque ?
Oui, donc je suis médiathécaire à la médiathèque de Saint-Barthélemy d'Anjou. C'est-à-dire que je m'occupe plus particulièrement du fonds de bandes dessinées et mangas ados, adultes. Je m'occupe un petit peu du numérique et puis du fond musique aussi, ado-adulte. Et voilà, en gros, mes missions principales.
Quand on parle de médiathèque, beaucoup de gens comme moi pensent surtout aux livres. Comment tu décrirais la médiathèque aujourd'hui en quelques mots ? Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les
livres. Il n'y a pas que les livres, effectivement. Il y a d'autres supports comme les CD, les DVD, mais aussi les applications, toutes les ressources numériques en ligne que via une convention avec le Bibliopôle, qui est la bibliothèque départementale de près du 49, on peut proposer à tous nos abonnés gratuitement. Donc ça, c'est grâce au département. Donc voilà, c'est tout un ensemble de ressources sur différents supports. C'est pour ça qu'on parle de médiathèque.
Ok, et avec ces ressources aussi, il y a des événements. Il y a un prochain temps fort qui arrive, c'est Grand Écran à la Renloue. Déjà concrètement, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste cette soirée ?
Alors c'est toute une fin de journée qu'on propose ce vendredi, le 13 février, au public de la médiathèque, ceux qui sont habitués comme ceux qui ne sont pas habitués et qui voudraient découvrir la médiathèque et ses propositions. Donc là, c'est à partir de 16h30, on propose de venir prendre un petit goûter. Voilà, et ce sera suivi d'un premier film un premier film familial, on va dire, à partir de 7 ans. Et ensuite, on proposera vers 19h30 un petit temps d'échange, des petits jeux qu'on va... en attendant le deuxième film à 20h qui sera lui proposé pour un public à partir de 10 ans.
Ok.
Voilà, des films surprise, on va dire.
Ok, très bien. Mais même si tu peux pas nous dévoiler les titres apparemment de cette programmation, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'esprit ? Ça va être quel genre de type de film ?
C'est des films familiaux. On est plutôt orienté nature. Voilà, c'est un film très chouette, on va dire sans parole.
Ok.
Voilà, donc mais c'était un très bon moment, deux très bons moments à passer en famille à la médiathèque ce vendredi. Ouais.
Ok, et qu'est-ce que ça change selon toi de regarder un film dans une médiathèque plutôt que d'aller dans un cinéma classique ?
D'ailleurs, il y a une question de proximité. Hein, quand on est habitant de Saint-Barthélemy d'Anjou, on peut aller très rapidement à la médiathèque de sa ville, apprendre à connaître d'autres personnes de la même ville. Donc il y a tout un petit des liens sociaux qui peuvent se créer à cette occasion-là. Et puis ça permet de découvrir aussi évidemment la médiathèque avec tous les autres services qu'elle propose.
Et pourquoi pas amener du monde et venir découvrir des livres, d'autres médias.
Oui, ok. Oui, tout à fait.
Et il y a aussi, en parlant de cinéma, il y a Ciné-Vacances. Là, c'est un autre format. C'est quoi la différence entre Ciné-Vacances et Grand Écran à la Ronde?
Ciné-Vacances, c'est une proposition qui... donc, pendant les vacances de février, qui va avoir aussi lieu pendant les vacances d'avril, où là, on propose à notre public une séance de cinéma pendant les vacances. Voilà, ça permet de faire des propositions sur un temps où il y a moins, où il y en a moins d'habitude. Okay. Voilà.
Donc le type de public visé, c'est plutôt les enfants, les familles?
C'est plutôt familial. Okay. Voilà, à partir de 6 ans pour les ciné-vacances.
Okay.
Et donc ça aura lieu le vendredi 27 février, là, pour les vacances qui arrivent, à 14h. Alors tout ça, Grand Écran comme Ciné-Vacances, c'est sur réservation. Faut téléphoner au 02 41 93 35 30. Voilà, vous téléphonez, vous réservez, c'est gratuit.
Ok.
Pour tout le monde.
Et plus largement, toujours en parlant de cinéma, pourquoi une médiathèque elle a intérêt à proposer du cinéma selon toi?
Parce que l'une des missions de la médiathèque, c'est de d'élargir les horizons culturels des publics auxquels elle s'adresse. Donc, ça comprend le cinéma, comme ça comprend la bande dessinée, les romans, les documentaires, les albums jeunesse, voilà, presse, voilà, tout ça.
Okay. J'ai vu un chiffre passer comme quoi il y avait une forte augmentation du nombre d'adhérents en France dans les médiathèques, une hausse de 11%. Mmh. Comment toi, en tant que médiathécaire, tu expliques cela?
C'est compliqué, c'est tout un ensemble de facteurs qui peuvent intervenir. Je sais pas, est-ce qu'il y a une question de services de proximité qui rentre en jeu, peut-être. Là, j'avoue que je maîtrise pas l'ensemble des facteurs qui conduisent à cette augmentation, mais qui est bienvenue. Nous, on trouve ça chouette, c'est super.
Et toi, au sein de ta médiathèque, tu la vois cette hausse, cette augmentation de...
C'est difficile à mesurer puisqu'on a des périodes, c'est très fluctuant en fait selon le moment de la journée et puis selon les saisons. Donc c'est très difficile à mesurer. On s'en aperçoit quand on fait des statistiques en tout début d'année.
Voilà. Ok, merci à toi. Je reviens après pour d'autres questions sur le prix Sésame.
Avec plaisir.
Merci Laurie et Yann. On revient dans quelques instants, mais d'abord une petite pause musicale.
Le ciel pianote sur les ardoises, petite pagaille de phrases de pluie. Le quai nu joue-t-il le jazz de ce que j'ai, de ce que j'ai plus? Comme un poème sans une phrase dans la paume de la pluie. Je suis la framboise ingénue, un cri rose dans le gris. Petite pagaille de phrases de pluie. Ce mardi, pas de bleu, du gris. Un peu de nuit dans le jour clair. Je suis grise comme la pluie. Je reconnais ce petit air. Et le petit air me reconnaît. Dedans je suis, j'étais, je serai. La petite fille que j'étais. La petite vieille que je serai. Petite pagaille de phrases de pluie. Le quai nu joue-t-il le jazz de ce que j'ai, de ce que j'ai plus? Je suis la framboise ingénue, un cri rose dans le gris. Ce mardi, pas de bleu, mais je danse et la pluie. Les yeux dans les yeux, comme on se danse et la pluie. C'est la pluie.
grisaille, pétard mouillé. Ciel écorché, que veux-tu que je fasse? Une inarticulable laveur se passe. Une inarticulable laveur se passe. Roulé, grisaille, pétard mouillé.
Vous êtes toujours sur Topette au 101.5 FM et nous allons revenir avec Loris et Yann pour parler du prix Sésame de la médiathèque.
18h10, 19h, c'est Topette sur Radio G.
Et oui, comme tu l'as si bien dit Sidonie, on va parler du prix Sésame déjà. Yann, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce prix, est-ce que tu peux nous en parler, nous dire en quoi ça consiste ?
Oui, alors c'est un prix national, c'est un prix, la particularité c'est que c'est un prix de lecteurs. Ce sont les lecteurs qui vont élire les lauréats des prix. Ils se déclinent dans plusieurs formats, il y a un prix roman, un prix bande dessinée. Nous c'est les deux prix qu'on propose à la médiathèque de Larenloup. Il existe aussi un prix DVD mais on n'y participe pas à la médiathèque.
OK. Vas-y, continue.
Non, c'était vous.
Okay. Et du coup, tu viens de le dire, ce qui est particulier, c'est que ce sont les lecteurs qui votent. Pourquoi c'est important pour toi de mettre les lecteurs au centre de ce prix ? Pas pour le...
Pour une question de participation, pour une fois, on demande l'avis des lecteurs. Enfin, il y a d'autres prix où leur vote peuvent intervenir, mais pas de façon... pas complètement, en fait. C'est qu'un des éléments des votes.
Et le type de livre mis pour ce prix ?
Alors, sur le prix roman, les personnes qui participent à la sélection, dont Aurélie, la responsable de la médiathèque et qui a en charge le fonds de littérature à la médiathèque, essayent de sélectionner donc des romans de petite et moyenne maison d'édition. Ils essayent de privilégier ça. En ce qui concerne la bande dessinée, c'est un peu plus difficile. Il y a une telle concentration, en fait, c'est beaucoup, beaucoup de grosses maisons d'édition, donc c'est plus délicat à faire valoir ce procédé. Voilà, mais il y a tout comme pour les romans, c'est une sélection avec des professionnels, des personnes qui font partie de CE d'entreprise, et puis aussi des bibliothécaires qui participent à la sélection et qui ensuite proposent l'année suivante aux lecteurs.
Ok, et concrètement, si un auditeur de Radio G veut participer, veut voter pour un livre, comment ça se passe au sein de votre médiathèque ?
Alors, ce qui serait bien, c'est qu'il vienne s'inscrire à la médiathèque de Saint-Barthélemy d'Anjou, comme ça il pourra participer au vote, puisqu'on ne comptabilise, nous, à la médiathèque, que les votes des abonnés de la médiathèque. Sinon, il faut faire partie d'un CE qui propose ce prix Sésame.
Ok. Ouais. Et c'est plutôt accessible pour les gros lecteurs ou c'est accessible à tout le monde ?
Ah non, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un gros lecteur. Le principe, alors sur les romans, il y a une sélection de 10 romans et on a jusqu'au mois de novembre. Là, on vient de lancer la nouvelle sélection. Toute fin janvier, ils ont jusqu'au début novembre, pardon, pour lire les 10 romans, mais on n'est pas obligé non plus. En fait, à la fin, on doit élire son podium, ses 3 préférés, mais on n'est pas obligé de lire les 10 si on n'a pas eu le temps. Comme pour les BD, c'est pareil, il y a 9 BD qui sont proposés. C'est bien si on lit l'ensemble, mais c'est pas grave si on n'a pas eu le temps de les lire toutes.
Et toi, personnellement, t'as un petit coup de cœur dans cette sélection ?
Ah oui, mais je voudrais pas influencer les lecteurs sur leur choix.
Je me tourne autour de la table. Est-ce que il y y a des personnes qui ont déjà entendu parler de ce prix
Non, pas du tout.
Okay,
pas du Donc tout. C'est hyper intéressant de le connaître et de comprendre un peu les contours. Et, je trouve ça hyper bien que ce soit aussi ouvert au CE, parce que ça va toucher du coup des gens qui sont peut-être plus éloignés des médiathèques.
Et toi, personnellement, t'es amatrice de lecture de...
On est des grands consommateurs de ludothèques et médiathèques. Et alors après, je ne connais pas la médiathèque dont on parle, mais c'est pas quelque chose que je connaissais, non.
Ok. Et bah, du coup, ce sera peut-être l'occasion d'y aller.
Ça peut être l'occasion d'aller faire un tour.
Ok, bah, je pense qu'on a fait le tour sur le prix Sésame, à part si... Il y a d'autres.
Juste pour préciser, oui. En fait, à l'origine, c'est vraiment les CE qui proposaient ce prix Sésame et sont venus ensuite les médiathèques.
S'incruster.
Ils sont venus s'incruster les médiathèques, oui.
OK.
Et bah, autre prix à décerner après le prix Sésame, il y a celui du Grammy Awards des mamans à décerner à la daronne angevine qu'on écoute tout de suite.
Zézette, Kiki, Foufoune, Zigounette, Bistouquette, Minette, Nouille. Ce sont des mots que l'on entend souvent pour parler aux enfants de leur partie intime. Mais qui fait ça? Enfin, moi, perso, ça m'a toujours étonnée. Pourquoi utilise-t-on ces mots-là? Pourquoi ne pas simplement dire les vrais mots? Alors, en y réfléchissant et en regardant un peu ce qui se passe dans les médias et chez les spécialistes de l'enfance, deux choses importantes ressortent. La première, c'est toute simple. Utiliser le bon vocabulaire aide les enfants à s'exprimer clairement. Un enfant qui peut dire « j'ai mal au pénis, ça me gratte les testicules, j'ai mal à la vulve », il peut expliquer ce qui lui arrive. Parce que moi, je sais pas à vous, hein, mais moi, quand je vais chez le médecin parce que j'ai mal au sein, je lui dis pas « bobo pouette pouette », ça n'a pas de sens. Je me vois pas aller chez ma sage-femme et lui dire « quand je fais pipi, j'ai mal au minou », ça ne ressemble à rien. Quand on a des douleurs, on se le dit « j'ai mal au coude, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre ». Mais pour les parties intimes, c'est pareil. On apprend à nos enfants les oreilles, le nez, la bouche. Alors apprenons aussi le pénis, les testicules, la vulve, les lèvres. Ce ne sont pas des gros mots, ce sont les mots du corps. Et la deuxième chose importante, c'est la prévention. Plusieurs études montrent que les enfants capables de nommer correctement leurs parties intimes sont moins vulnérables face aux agissements malveillants. Ils peuvent expliquer clairement ce qui se passe, demander de l'aide et poser des limites. Ça leur donne du pouvoir. Moi, je me souviens, quand mes enfants étaient tout bébés, je leur disais « je te change la couche, je te nettoie le sexe ». Et un jour, une amie m'a répondu « ah, mais c'est super que tu dises le sexe, parce que moi, jusqu'à 12 ans, je pensais que ça s'appelait une petite fleur ». C'est pas des blagues, je vous promets. Mais ça montre à quel point on entretient parfois un flou sans comprendre d'où ça vient. Parce que pour les enfants, il n'y a pas de tabou, hein. Le tabou, il vient des adultes. Pourtant, le corps fait partie de la vie de tout le monde. Et c'est pas simple non plus, même pour les professionnels de la petite enfance. Moi, j'ai déjà eu un animateur de centre de loisirs venir me voir tout rouge. Votre enfant a eu mal au niveau de... Enfin, vous voyez par là... Et mon enfant de répondre, ben oui, j'ai mal à mes parties intimes. Bon, alors là, à ce moment-là, l'animateur a fait un AVC. Mais ça montre bien que le problème vient de nous, les adultes, mais pas du tout des enfants. Après, je comprends que ce soit pas facile pour tout le monde d'en discuter ouvertement avec ses enfants. Nous, pour faciliter la discussion à la maison, on a adopté des livres. On a le petit illustré de l'intimité. On a celui de la vulve, du pénis et de la conception. C'est Tiphaine Dieu me garde et Mathilde Body qui ont fait ces livres-là. Ils sont hyper bien. Les enfants peuvent les feuilleter, poser des questions et comprendre à leur rythme. En plus, si vous êtes du côté d'Angers, il existe une ressource locale qui est vraiment intéressante. C'est Mathilde Mironi. Elle est consultante en santé sexuelle pour les enfants jusqu'à 12 ans. Moi, je vous invite à aller voir son Instagram. Il est hyper riche. Elle partage beaucoup d'infos, des conseils. Et ça peut aider les parents à aborder certains sujets qui peuvent être délicats. Elle propose aussi des ateliers parents-enfants autour du consentement et de l'intimité. C'est organisé par tranche d'âge de 3 à 12 ans. Ce sont vraiment des ressources hyper précieuses. Résultat, les enfants connaissent leur corps, ils savent que leurs parties intimes leur appartiennent et que personne n'a le droit d'y toucher sans leur accord. Et franchement, si votre enfant est capable de dire « pâte à modeler phosphorescente », il peut dire « vulve ».
Merci Anaïs. On va revenir au sujet principal de la soirée avec vous Yann et Loris sur Topette au 101.5 FM.
On a parlé de cinéma et de prix. Maintenant, on va parler plus de lecture. Il y a aussi une nouveauté. Enfin, je ne sais pas si c'est une nouveauté. En tout cas, un événement à la médiathèque, c'est le Book Club qui arrive prochainement, le 3 mars, je crois. En quoi ça consiste ?
C'est tout simplement un rendez-vous régulier qu'on propose à nos lecteurs et lectrices pour échanger autour des livres, des coups de cœur qu'on a eus, aussi bien en roman qu'en bande dessinée. Mais on peut parler aussi de DVD, ça se présente rarement, mais c'est possible aussi. C'est très chouette de venir et puis d'échanger et de faire découvrir à d'autres ce qu'on a aimé et pourquoi on l'a aimé. Ouais.
Quand on parle de book club, on pourrait imaginer quelque chose de très scolaire, mais en réalité, ça ressemble à quoi l'ambiance pendant ces séances de lecture et de débat ?
Ah bah c'est juste voilà un petit tour de parole, on va dire. Chacun quand il veut prend la parole pour faire découvrir un livre. Faire découvrir l'histoire de ce livre, peut-être des mots sur l'auteur ou l'autrice, et puis dire en quoi ce récit a été touchant pour la personne qui le présente. C'est de manière très très informelle. Hein, il n'y a pas de c'est bon enfant. Hein.
Oui, c'est un moment d'échange. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent, c'est des habitués, des curieux, des gens qui lisent beaucoup ?
Il y a les deux, il y a des habitués et puis des personnes qui sont nouvelles, qui viennent une fois, qui viennent pas forcément une autre fois, et puis enfin voilà, ça se renouvelle. Il y a une partie, il y a vraiment effectivement un noyau dur, mais il y a autour des personnes qui fonctionnent un peu comme un satellite du book club.
Et qu'est-ce que les participants viennent chercher, selon toi, des idées de lecture, du débat, du partage, de la discussion ?
C'est ça, exactement. Des idées, du débat, de l'échange, du lien social aussi. On en revient un petit peu toujours à ça, mais c'est super important. Ça fait partie de notre rôle de proposer ça. Ouais, mais c'est tout à fait ça.
Et pour ce book club, on m'a dit que tu voulais mettre l'accent... un accent personnel sur l'œuvre de Jean Dittard. Pourquoi lui en particulier ? Est-ce que tu peux nous en parler ?
Ah, parce que je le trouve assez bluffant, parce qu'il propose toujours des œuvres assez exigeantes et singulières. Voilà, j'en ai amené trois. Alors évidemment, c'est pas très radiophonique, la bande dessinée. C'est juste, je les ai amenés parce que ça m'aide à en parler. mais trois de ces dernières œuvres qui m'ont touché et qui sont très différentes les unes des autres. Il y a Les Illuminés qu'il a écrit, co-scénarisé avec son nom m'échappe, Laurent-Frédéric Bollet. Et qui parle, c'est un récit sur la relation entre des figures majeures de la poésie de la deuxième moitié du 19e siècle, donc Rimbaud, Verlaine et Germain Nouveau, que je ne connaissais pas. Voilà, j'ai appris son existence à travers cette œuvre-là. Et il y a toujours Jean Dittard, toujours un récit... une narration très originale. Il y a une attention à l'objet livre, toujours à proposer quelque chose de singulier. Là, sur Les Illuminés, par exemple, chaque planche est divisée horizontalement en deux récits. Et à chaque fois, on voit souvent c'est par duo, donc Rimbaud qui échange avec Verlaine ou Verlaine qui échange avec Germain Nouveau. Et on suit ces relations entre ces personnages, toute l'évolution sur plusieurs années. C'est très, très. C'est super chouette. Je continue, donc je continue pas.
Tu peux continuer, mais.
une petite réaction, si je peux me permettre, parce que c'est pas tout à fait la BD comme je l'imagine. Moi, j'ai principalement Spirou et Fantasio, tu vois, des trucs assez. Là, c'est très épais, ça fait presque plus un atlas qu'une BD.
Ah, c'est sûr que quand je disais exigeante et singulière, en fait, la particularité de Jean Dittard, c'est qu'il a toujours un travail hyper approfondi, très très documenté, et du coup, ça va donner lieu à des œuvres assez denses. Donc voilà, on a quelques heures de lecture souvent pour découvrir son œuvre et on passe à chaque fois un super moment. Mais effectivement, on est loin de la BD classique, la BD franco-belge classique, type Spirou et Fantasio, Lucky Luke, Astérix, etc. Oui.
Donc le public ciblé, c'est plutôt un public assez mature. C'est moins de la BD comme l'a dit Pierre Benoît pour les jeunes ou pour.
Je sais peut-être. Peut-être effectivement, mais je trouve ça sympa aussi de montrer à un public qui n'est pas forcément un grand connaisseur de la bande dessinée que la bande dessinée a des propositions qui sont hyper variées, hyper diversifiées dans la forme de l'objet comme dans la narration. C'est vraiment très chouette là. Jean Dittard, pour ça, il est super fort.
C'est vrai que dans la proposition des Illuminés, comme tu disais, ça touche un public un peu plus mature, mais ça fait aussi écho à des choses qu'on a vues au lycée, des choses comme ça qui peuvent toucher justement un public jeune qui va peut-être pouvoir le lire pour s'instruire et peut-être compléter son cours. Du coup, c'est vraiment des propositions qui peuvent toucher tout le monde, je trouve.
Ah ouais, puis ceux qui ont effectivement les poètes de cette époque-là au programme de leurs études, ça leur permet de découvrir aussi d'une autre manière, voilà, avec un autre angle.
Okay. Est-ce que tu as un livre par lequel commencer dans l'œuvre de Jean Dittard pour
Alors j'ai parlé des Illuminés. Alors celui qui m'avait vraiment marqué, c'était le J'accuse, qui revient sur l'affaire Dreyfus, qui a vraiment divisé la France au tournant du XXe siècle. Et là encore, alors il y a un travail de documentation qui est énorme. Il a fouillé dans les archives, il est revenu sur plein d'articles de presse. Et de témoignages de l'époque, et notamment, c'est d'après ce que j'ai compris, c'est quand il a découvert le témoignage de Mathieu Dreyfus, qui est le frère donc d'Alfred Dreyfus, que l'idée lui est venue de travailler sur cette affaire-là et de le proposer d'une manière hyper moderne. Alors, la bande dessinée est encore une fois très dense, là cette fois dans un dessin noir et blanc en hachure, plutôt réaliste, et le format que Jean Dittard a choisi, en fait, c'est comme un format, à chaque fois il y a quatre cases, le gaufrier il est très régulier, mais la mise en page, il y a le choix de présenter ça comme une page de navigation, de navigateur internet, quoi. Il y a un onglet, il y a une petite croix pour fermer l'onglet, il y a un petit plus, parce que en plus de tout ce qu'on peut découvrir dans la bande dessinée, Jean Dittard propose aussi des bonus. C'est aussi une bande dessinée en réalité augmentée. Si on télécharge l'application qui va avec la bande dessinée, on peut accéder à plein de bonus, des petites fiches biographiques ou des articles de presse, je crois. Donc voilà, c'est très très, enfin c'est bluffant et c'est puissant comme bande dessinée. Okay.
J'ai une question, je prends un peu de recul sur le sujet, mais du coup j'ai vu un autre chiffre passer encore. J'ai vu que les bandes dessinées étaient en baisse de 9%. Est-ce que toi, en tant que médiathécaire, tu ressens la baisse d'attractivité ou pas du tout?
Pour l'instant, non. Ça fait des années que la bande dessinée, elle est en constante augmentation. Alors là, je sais pas effectivement qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est une réaction parce qu'il y a quand même plus de 6000 titres, je crois, qui sortaient par an depuis déjà longtemps. Donc l'offre est énorme. Et malheureusement, il y a une espèce de surproduction et on peut pas mettre toutes les œuvres et tous les auteurs, autrices en valeur dans les librairies, dans les médiathèques, c'est compliqué. Alors je sais pas d'où ça vient.
Je m'interroge juste parce que est-ce que manga, ça rentre en compte dans bande dessinée ou pas? Parce qu'on sait que les jeunes vont beaucoup plus vers les mangas aussi peut-être.
Bien sûr, les mangas c'est de la bande dessinée, c'est la bande dessinée d'origine asiatique. Aux États-Unis, c'est plus les comics. En Europe, c'est plus la bande dessinée franco-belge. Et puis après, il y a toutes les, depuis déjà quelques temps, il y a des auteurs qui sont assez spécialisés là-dedans, comme Jean Dittard. Il y a toutes les œuvres qui sont hybrides, qui vont aller piocher dans différentes cultures pour proposer des œuvres tout à fait singulières.
Ok. Moi, j'avais vu plus la baisse en termes de baisse de vente liée notamment à un prix apparemment trop élevé pour certains consommateurs. C'était plus dans ce sens-là, peut-être moins dans la production et dans l'intérêt. Mais
la question du prix, elle est
Centrale.
Pas évidente, effectivement. Bah, plus on augmente les prix et plus pour le public. De lecteurs et lectrices, c'est difficile à acheter, d'où l'intérêt de venir en médiathèque. Et voilà, mais en même temps, à côté de ça, il faut aussi savoir rémunérer correctement les auteurs, les autrices. Et pour l'instant, en fait, c'est malheureusement, il y en a beaucoup. La plupart, c'est très compliqué d'arriver à vivre de son art.
Okay. Bah merci à toi Yann, on revient vers toi vers la fin de l'émission pour rappeler les dates de tous les événements qui vont se passer à la médiathèque.
Et bah merci à toi aussi Loris. Du coup, comme tu viens de le dire, on rappellera brièvement quelques faits sur la médiathèque, mais avant, c'est son premier papier à la radio. Je vous prie d'accueillir Esteban.
Moi, je vais vous parler de l'association sportive de Saint-Étienne, souvent appelée AS Saint-Étienne ou ASSE. C'est un club de football français fondé en 1919. Sa couleur emblématique est le vert. Le club a été créé par Geoffroy Guichard sous le nom d'Association Sportive Casino. Le club prend son nom actuel en 1933 grâce à son passage au professionnalisme. Depuis 1931, l'ASSE évolue dans le stade Geoffroy Guichard, surnommé le Chaudron. Ce surnom vient d'un journaliste yougoslave qui compara ce stade à un chaudron bouillonnant. Le brouillard de l'hiver et les fumées des cheminées des usines autour du stade l'ont inspiré. Le stade comporte environ 42 000 places. Le club présente l'un des plus beaux palmarès du football français avec 10 titres de champion de France. L'AS Saint-Étienne a aussi remporté 6 Coupes de France et 5 trophées des champions. Côté continental, l'ASSE ne remporte aucun titre mais crée un exploit en 1976 en allant en finale de la Coupe des clubs champions. Privé au coup d'envoi de Dominique Rocheteau, les Verts touchent deux fois les poteaux, devenus maintenant les fameux poteaux carrés. Le club s'incline finalement 1-0 face au grand Bayern Munich. Parmi les légendes du club, on peut parler de Robert Herbin, Rachid Mekloufi, Salif Keïta ou encore de Loïc Perrin. Aujourd'hui, l'ASSE est quatrième de Ligue 2 et vise la remontée en Ligue 1.
Merci beaucoup Esteban pour toutes ces infos sur le club de Saint-Étienne. Un beau club, je dois l'avouer. Même si à mon cœur, ce n'est pas le meilleur. Hein. Il dépasse pas l'OL. Mais après, ça, c'est une question de point de vue. Hein. Toi, par exemple, Loris, qui suit le foot, c'est quoi ton club favori et pourquoi ?
Moi, je suis un grand fan du FC Nantes, même si actuellement, ce n'est pas la joie, on peut le dire. Mais bon.
Et toi, Pierre-Benoît ?
Oui, moi, c'est vrai qu'elle n'était pas là, Sidonie, la semaine dernière, mais on avait déjà eu ce débat sur Rennes, Nantes ou le SCO. Voilà, tu cherches, moi, c'est un petit peu entre les trois.
Bon, assez parlé de foot. Même si on reste sur le sport direction l'Italie, on va parler plus particulièrement des JO d'hiver. Loris a par téléphone Monsieur Nicolas Senna, volontaire aux JO de Milan-Cortina. Il nous explique son rôle au sein de l'organisation et de son expérience des JO.
Alors moi, Monsieur Senna Nicolas, donc je suis un ancien commissaire sportif des 24 heures du Mans. Okay. J'ai fait trois fois les 24 heures du Mans et deux fois le Grand Prix de Formule 1 de Belgique. Et c'est comme ça que j'ai pu un peu découvrir Paris 2024 et que j'ai pu être volontaire. Et dans la vie quotidienne, je suis en recherche d'emploi actuellement. Je suis dans le domaine de la métallurgie. Okay.
Et actuellement, voilà. Vous êtes volontaire donc au JO de Milan-Cortina, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait. Et ce matin, on était avec la ministre des Sports à l'Institut français. Okay. Voilà.
Et comment vous avez entendu parler du programme du coup de volontaire ?
Bah parce que il y a eu fin Paris 2024, on savait qu'il y avait Milan 2026, c'est comme ça qu'on a pu s'inscrire les volontaires.
Ok. Et pourquoi vous avez voulu faire volontaire du coup pour ces Jeux Olympiques ?
Pour continuer d'être dans le mouvement olympisme, parce que j'ai adoré Paris 2024. En fait. Okay.
Et donc oui, vous êtes un fan de sport.
Bien sûr.
Ok. Et de biathlon en particulier, ou c'était du coup juste une opportunité pour continuer
dans... Une opportunité.
Ok. Et concrètement, c'est quoi votre rôle en tant que volontaire ?
Bah, c'est vraiment, moi je suis au service des accréditations, c'est-à-dire que principalement je donne les accréditations officielles pour accéder au site officiellement.
Donc ces jeux sont assez particuliers, je l'ai dit précédemment, il y a des sites qui sont assez dispersés. Qu'est-ce que ça change pour l'organisation ?
Tout. Okay. Le suivi, le CNOSF, c'est très compliqué d'avoir des en 5 jours de visiter des sites, donc c'est vraiment la disparité des sites en fait.
Qu'est-ce que vous attendez de ces JO plus à titre personnel?
Bah c'est la rencontre, c'est le social, c'est vraiment la mise en avant de vraiment de rencontres générales sur ce point et vraiment de dire bah voilà comment on rencontre les gens. Comment rencontrer les personnes étrangères, etc. En fait, voilà. Okay.
Est-ce que selon vous, on mesure vraiment l'importance des volontaires dans les JO?
Ah bah, bien évidemment, c'est ce qu'a pris rappel à la ministre. Oui. Sans les volontaires, c'est pas, il y a pas de JO, il y a pas de Jeux Olympiques.
Et pour finir, une petite question plus personnelle. Après les JO. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous avez en vue?
Je prépare, c'est très bien que vous me posiez la question. Donc, monsieur Sénat Nicolas, j'ai vu, donc moi je travaille sur le sujet télécom, internet et transport pour les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques Alpes 2030. Donc, j'en ai très brièvement discuté avec madame la ministre ce matin, qui n'avait pas d'opposition. Je travaille dans un comité d'experts auprès de l'Union internationale des télécommunications, on appelle ça un focus group.
Okay.
Et ce focus group est en fait c'est rattaché à l'Union internationale des télécommunications, qui est l'organe de normalisation mondiale de la télécommunication et de la radio-télécommunication. Et mon objectif, c'est qu'en tant que contributeur de pré-normalisateur, comme un député qui déposait un projet de loi, principalement, ben on agit sur la volonté de mettre en avant cette partie-là, en fait.
Voilà. Ok. Bah, super, merci à vous. Vous avez quelque chose à rajouter ou...
Bah, moi, de mon côté, c'est vraiment un appel en général pour lancer cet aspect-là. N'hésitez, il faut vraiment, j'en appelle à la communauté de votre communauté, vraiment de cette action de l'olympisme. Okay. Et vraiment d'agir dans le bien commun de l'autre, de profiter des jeux comme un élément fédérateur et vraiment d'avancer dans ce point. Voilà, c'est une importance capitale pour mettre en avant l'olympisme et vraiment de dire bah voilà demain comment on avance sur ces sujets-là et comment on peut préparer les prochains jeux parce que c'est bientôt. Okay. Ça va vite, ouais. Très vite, et j'en appelle à tout le département, un appel à me contacter s'ils le souhaitent vraiment être un élément contributeur, vraiment d'ordre sponsoring, s'il y a vraiment des entreprises qui ont envie vraiment d'être un peu sponsor des JO Alpes 2030, c'est maintenant qu'il faudrait vous lancer, je le fais à titre personnel. Mais si vous voulez vraiment soutenir cette action que je mène, moi, dans le cadre de la préparation télécommunication, transport, je suis vraiment à la portée ouverte parce que c'est vraiment une action de normalisation, ça se prépare maintenant. Et quand je dis maintenant, c'est une confiance qu'on m'accorde comme ça. Voilà. Okay. C'est vraiment un appel à la chose sur ce point. Voilà.
Merci encore, Loris, pour toutes ces interviews. Deuxième émission animée de ma part et toujours pas renvoyée. Pierre Benoît a peut-être du souci à se faire. Ça me coupe carrément, je vois. Mais non, je rigole, je ne dépasserai jamais le maître. Mais bon, avant de finir, Loris, je te laisse conclure sur la médiathèque de Laranlou.
Oui, alors est-ce que Yann, tu as des dates à rappeler des événements qu'on a parlé?
Oui, donc vendredi 13, en fin de journée, à partir de 16h30, les deux films pour grand écran à Laranlou, les deux films familiaux. Et puis, après, il y aura le ciné-vacances. Et ensuite, on se retrouve le 3 mars pour un book club. C'est ça, les prochaines dates à retenir pour la médiathèque.
Ok, merci beaucoup. On peut retrouver ces informations sur le site de la médiathèque?
On peut retrouver les informations sur le site de la ville, celui de la médiathèque, et puis sur place, évidemment. J'ai même pas parlé de la dernière BD de Jean Dittard, Les Sentiers d'Anavac, qui est un bijou. Mais voilà,
on a le temps, si donné on peut. Oui,
c'est, ouais, bah, c'est vrai,
d'un tout petit mot, si tu veux.
Bon, bah voilà, le dernier bijou de Jean Dittard, avec Romain Bertrand en co-scénariste, et cette fois... Il s'est penché sur la culture aztèque au moment où les colons espagnols débarquent et vont progressivement venir effacer cette culture aztèque. Et donc, Jean Dittard va nous proposer un récit authentique hein, d'un père franciscain, je crois, franciscain ou dominicain ? Ah, je ne sais plus, j'ai un doute. Bref. Qui va, avec toute une équipe de jeunes aztèques, créer un codex de cette culture aztèque qui est en train de disparaître. Et en fait, ils vont réussir à faire cette petite encyclopédie. Et oui, donc il raconte cette histoire-là, encore une fois, avec énormément de documentation, énormément de vocabulaire, une présentation graphique. Alors on retrouve les hachures un petit peu dans J'accuse, mais il y a aussi pas mal de couleurs qui mettent en valeur toute l'ornementation et toute la culture aztèque. Dans un papier qui rappelle un peu celui du parchemin. Donc voilà, il y a toujours une attention chez lui sur l'objet livre en lui-même, en plus du travail documentaire et graphique très original à chaque fois.
Ben merci pour ces découvertes, en tout cas de très beaux objets. J'imaginais pas la BD comme ça, moi, en tout cas personnellement. Donc voilà, physiquement ça ressemble à quelque chose, mais quand on l'ouvre, en fait, c'est l'expérience BD, c'est assez contrastant avec nos habitudes, on va dire, de lecteur ou de lectrice. Merci Yann.
Avec plaisir.
Je te laisse rappeler le numéro de la médiathèque, peut-être que les gens ont le temps de se garer, de prendre un crayon, de noter.
02 41 93 35 30.
Voilà, sinon sur le site internet, hein, tu l'as dit aussi, il doit y être le numéro. Merci beaucoup, merci Sidonie pour cette deuxième émission. Effectivement, c'était pas fait exprès le micro tout à l'heure. Merci Loris, merci Anaïs, Esteban et Kelly. On se retrouve dans deux semaines, Kelly, Anaïs aussi, ouais. Puis Esteban, on se retrouve jeudi, 18h10. Prenez soin de vous, topette.
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 Les étoiles te le disent mieux que moi. Regarde-les, je pense à toi. Le temps qui passe nous sublime, nous dépasse, nous affine. Le vin dans ta bouche le chante mieux que moi. Mon ami, tout ce que je sais de la merveille de vie et de l'éternité, les nuages aujourd'hui te le disent mieux que moi. Regarde-les, je pense à toi. Regarde-les, je pense à toi. Tout ce que je sais dès lors m'est des impossibles à dire. La mort et les amours perdus te le disent mieux que moi. Mon ami, tout ce que je sais du mystère des douceurs et de la pesanteur, les nuages, les étoiles te le disent mieux que moi. Regarde-les, je pense à toi. Regarde-les, je pense à toi. Tout ce que je sais dès lors m'est des impossibles à dire. La mort et les amours perdus te le disent mieux que moi. S'ils te tourmentent, pense à moi. Tout ce que je sais dès lors m'est des impossibles à dire. La mort et les amours perdus te le disent mieux que moi. S'ils te tourmentent, pense à moi. On habitait le feu, le cœur de la cible. On habitait l'éclair lucide et la foudre te le dit mieux que moi. On était si beau, souviens-toi. On était si beau, souviens-toi. On était si beau. Tout ce que je sais des larmes et des impossibles à dire, la mort et les amours perdus te le disent mieux que moi. S'ils te tourmentent, pense à moi. Tout ce que je sais des larmes et des impossibles à dire, la mort et les amours perdus te le disent mieux que moi. S'ils te tourmentent,